Carnet de campagne avec la CARAC, mutuelle d'épargne et de retraite engagée pour votre patrimoine. Rendez-vous sur carac.fr. France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Nous continuons à passer en revue les solutions qui germent ou qui s'épanouissent partout en France. Deux étapes aujourd'hui, la première en Seine-Saint-Denis et la deuxième dans le Rhône. Tout d'abord, nous allons prendre des nouvelles de la compagnie de la Fontaine aux Images qui partage un lieu intermédiaire avec l'association 360 degrés Sud Intermédiaire car il coordonne 5 pôles d'activité, écologie, culture, insertion, solidarité et alimentation. Et puis dans le Rhône, nous annonçons le retour des jeans made in France, en l'occurrence de nouveau, du Gaulois, marque remise au goût du jour par notre deuxième invité, Jean-Charles Tchakirian.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Lisa Valverde, bonjour.
Bonjour.
J'avais eu le plaisir de parler avec vous il y a quelques années pour La Fontaine aux Images que vous dirigez. Vous êtes directrice artistique de cette Fontaine aux Images depuis 2014 et de la compagnie 360 degrés Sud. Un peu plus tôt, depuis 2005, sur un espace, parce que c'est ça qui est intéressant, à Clichy-sous-Bois, qui est une, vous le présentez comme un village créatif et solidaire. Il y a une tendance aujourd'hui, c'est que les lieux de culture deviennent des lieux de vie et de fabrique et de liens.
Oui, tout à fait. On entend parler beaucoup de tiers-lieux. Alors, est-ce qu'on se reconnaît dans cette appellation, dans ce label ? Pas vraiment. On parlerait plutôt de lieux intermédiaires indépendants. Intermédiaires, pas parce que c'est un lieu moyen, mais parce que c'est un lieu qui fait le lien entre des habitants, des personnes, mais aussi des structures, des projets, des compagnies, des équipes artistiques et puis des initiatives associatives. Mmh. Ce lieu qu'est le chapiteau de la Fontaine aux Images et de la yourte de 360 degrés Sud, c'est monté il y a 18 ans maintenant, ou 17 ans, en 2005, et c'est construit de manière absolument empirique. C'est-à-dire que c'est l'observation du terrain, les échanges avec les habitants qui nous font chaque année choisir ou œuvrer pour un nouveau projet, pour créer du commun. Mais il n'y a pas une volonté à la base de recréer un village. Le village s'est créé parce que il y avait la place et l'envie pour le faire. Ça se fait un peu
mais ça aurait
à
pu... Oui, mais Lisa, ça aurait pu être une construction provisoire, de transition. Vous prouvez qu'elle est pérenne. Et on comprend que le chapiteau de la compagnie de théâtre de La Fontaine aux Images et la yourte de 360 degrés Sud ont résisté à tous les vents, vents politiques, vents de subventions, vents de crise sanitaire. C'est quand même rare, ça.
Mal défendu, c'est vrai. Mais là où je vous rejoins, c'est qu'en 2005, lorsque nous nous sommes installés, c'était du précaire. Et ça a toujours été du précaire, et ça continue. Et bon an, mal an, on se structure, on remplace, on agrandit, on étend. On a des nouveaux modules qui sont apparus depuis 2018. Notre dernier passage à Carnet de campagne. Nous avons maintenant une cuisine solidaire qui sert deux fois par semaine. On a 17 producteurs partenaires à notre AMAP. On va remplacer le chapiteau et en créer un nouveau. Et il y a les ateliers vélo, il y a la permaclôture, notre clôture potager qui a vu le jour. Enfin, il y a énormément de modules qui sont venus s'additionner à ce petit village.
Oui. Mais comment vous construisez votre trésorerie, Lisa, dans ce contexte ?
Alors, c'est un montage financier complexe. On va dire qu'on s'autofinance à 20-25% selon les années. Et ensuite, on répond à des appels à projets, de dispositifs publics à 90%, on va dire. C'est-à-dire que les municipalités, départements, régions, États ont des orientations et ont envie de travailler avec nous qui sommes sur le terrain sur des thématiques. Et nous, par rapport à ces thématiques-là, on propose des projets qui sont en adéquation avec nos savoir-faire à nous et les besoins exprimés par les habitants.
L'esprit de l'ensemble est celui de l'économie sociale et solidaire et aussi de l'écologie. J'allais vous demander, mais Lisa, est-ce que toutes ces activités ne vous éloignent pas de votre premier axe de travail, à savoir la création artistique ?
Oui et non, puisque je pense que le fait que les publics de l'économie sociale et solidaire et du spectacle vivant se croisent, c'est une très bonne chose et je pense que c'est très complémentaire sur un lieu tel que le nôtre. Après, moi, personnellement, dans ma carrière, la réponse est oui. Quand je suis sur un projet d'économie sociale et solidaire, je ne suis pas en train d'écrire le prochain spectacle ou de le tourner. Mais dès l'année prochaine, on va mutualiser entre 360 degrés Sud et La Fontaine aux Images un poste de direction administrative et de coordination, ce qui va me permettre, étant donné que les structures ont grossi et qu'il y a de plus en plus d'activités, ce qui va nous permettre de pouvoir avoir un travail de qualité des deux parts.
Dans le programme à venir, Lisa, qu'avez-vous à nous proposer ?
Eh bien, à partir du mois de janvier, on reprend les repas solidaires à prix libre tous les mercredis midi, entre midi et 14h. Une semaine sur deux, il y a aussi dans notre resto Guinguette les menus issus des produits de paysans de la MAP. Et on vous attend très 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 nombreux pour le bal aux chapes, qui est un petit peu la soirée de début d'année du chapiteau de la Fontaine des Images tous les ans. Et c'est le vendredi 28 janvier à partir de 19h pour un concert et une scène ouverte. Tout le monde peut venir chanter sur scène accompagné par les musiciens du chapiteau. Et la thématique est « Reprises et prises ». Des chanteurs et des chanteuses peu repris.
Belle formulation aussi. Merci Lisa.
Merci beaucoup une fois de plus.
France Inter, carnet de campagne.
Depuis 1950, on a calculé qu'avec une agriculture qui se modernisait, ce sont 750 000 km de haies qui ont disparu, soit deux fois la distance qui nous sépare de la Lune. Les choses ont changé ou sont en cours de transformation avec la complicité des agriculteurs eux-mêmes. Pour prêter main forte aux personnes qui replantent des arbres, l'association des enfants et des arbres entraîne les plus jeunes à participer à des actions citoyennes solidaires responsables. Concrètement, l'association invite des classes du CM1 à la 6e à planter des arbres chez les agriculteurs. En moyenne, ce sont 200 arbres qui prennent racine par classe. Le bilan en 2021, 10 000 arbres plantés avec l'aide de 3 500 enfants chez 60 agriculteurs en France. Le pari est pris d'en planter 20 000 l'année prochaine. L'association des enfants et des arbres est née de l'observation du monde agricole par la réalisatrice de documentaire Marie-France Barillet. Son film « Le temps des arbres » diffusé en mars 2020 sur France 5 avait rassemblé 1 million de téléspectateurs. On y découvrait les forestiers, les éleveurs, les vignerons, les paysans qui avaient replacé l'arbre au cœur de leur métier. Afin d'aider les enseignants intéressés par cette démarche, l'association a édité un kit pédagogique qui est mis à leur disposition. Tous les renseignements sur le site des enfants et des arbres.org. Jean-Charles Tchakirian, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous prenez une belle revanche par rapport à l'histoire de la famille, de votre famille Tchakirian, qui fabrique des jeans dans l'atelier de dessine depuis 1974. Et vous relevez le défi de reprendre en main les machines.
Oui, absolument, Philippe. On prend une belle revanche, mais au-delà de la revanche de la famille Tchakirian, j'ai plutôt envie de dire la revanche des entrepreneurs et des entreprises françaises qui ont subi de façon violente un petit peu les revers de la mondialisation, dont on fête malheureusement cette année, vous le savez, la 20e anniversaire. Et en cela, il y a eu une prise de conscience de la part des Français en général qui se sont dit, 20 ans après, qu'est-ce que la mondialisation m'a apporté à moi et qu'est-ce qu'elle a apporté à nos entreprises françaises. Et c'est comme ça qu'on a pris de façon collégiale notre revanche.
Ouais. Alors en France, on a le slip français, maintenant on a le jean. Le Gaulois. Et, alors, explication, le Gaulois, je résume, 100% lin de Normandie, zéro irrigation, zéro OGM, zéro déchets, zéro produits chimiques et très peu d'eau. Précisément, aujourd'hui, le Gaulois, c'est quelle filière de travail et combien d'emplois ?
Alors, c'est le Gaulois, ça met en valeur le savoir-faire des artisans de nos entreprises françaises. Sa fibre est française, une des rares fibres que la nature nous donne en France, puisque le le lin pousse, de quand on parle de lin européen, même si on a le plus beau et la plus grande quantité en production en France, on aime à dire que le lin est européen parce qu'il pousse de Caen à Amsterdam. Et puis cette fibre, elle fait travailler toute une filière. Après le lin, qui fait travailler les lumiculteurs, évidemment, et toute la filière, le taillage et la transformation mécanique de la tige de lin en filasse. C'est une transformation qui ne nécessite ni eau, ni produits chimiques. À partir de cette filasse, le filateur, alors il existe historiquement Safilin en France, qui existe depuis 250 ans. Il y a une autre filature chez Emmanuel Lang, à Hirsing en Alsace, oui. On le fait retordre dans le nord de la France, on le fait teindre dans le nord de la France, et il vient à Charlieu, on le fait tisser chez Entreprises Muguet, qui sont classées patrimoine vivant depuis 1967, je crois, ou même plus encore, et il vient enfin dans nos ateliers, on fabrique des jeans depuis 1974, effectivement.
Vous expliquez que le Gaulois en lin, c'est 680 km parcourus contre 65 000 pour un jean traditionnel en coton. Mais ce que j'aime bien, c'est l'esprit, juste avant de parler ensemble à l'antenne, vous me disiez, vous étiez au salon par exemple du Made in France, vous avez rencontré aussi vos confrères comme Thomas Hurier pour le jean 1083, et y a pas, on n'est pas dans une concurrence et une compétition entre créateurs en France ?
Non, pas du tout. En tout cas, quand on échange entre nous, on a un combat. Alors, vous avez cité Thomas, bien sûr, de 1083. Vous pouviez citer aussi Julien de la maison Teufery ou Dao de chez Dao Devi et puis Kipley aussi qui fabrique des jeans. Voilà, on est une poignée de jeaneurs français avec chacun son concept. On a un combat, en commun, c'est la mondialisation. On a un combat en commun, c'est la relocalisation. Mmh. On veut revaloriser un siècle de progrès technique, technologique, qui a été balayé d'un revers de la main en moins de 20 ans. On parle pour notre filière, on pourrait parler pour beaucoup d'autres filières de produits manufacturés. Donc nous, ce qui nous relie et nous rallie, ce sont ces convictions-là de se dire... On va répondre à cette demande de consommateurs final qui disent nous on veut acheter français et nous on leur dit nous on va faire ce que vous nous demandez de faire parce que c'est le cercle vertueux évidemment parce qu'il faut absolument répondre à cette demande. Je vais vous expliquer en deux mots. Il se vend 70 millions de jeans chaque année en France. Quand on se regroupe tous les jeaneurs français. Je pense qu'on en avait parlé avec Thomas au salon, je crois qu'on ne fait pas encore 200 000 jeans français en France. Donc vous voyez, avant de l'exporter, on a beaucoup à faire sur notre territoire.
La proportion est impressionnante, franchement.
Oui.
Bon, en tout cas, vous allez continuer à faire des ventes, parce que je donne quand même le lien, c'est legaulois-jeans.com. C'est le lien que vous allez trouver à nos pages d'émission et vous allez découvrir si vous ne le connaissiez pas encore, le jean de Jean-Charles Tchakirian. Merci beaucoup Jean-Charles.
Merci Philippe.
Un petit mot avant le jeu en catégorie lutte contre le gaspillage alimentaire. Il y a beaucoup de propositions. La dernière s'appelle Hors Normes. Normes au pluriel, elle récupère des produits refusés par les canaux traditionnels de distribution directement chez les producteurs. Ce sont des légumes dits moches, d'ailleurs pas formatés, qui sont vendus jusqu'à 40% moins cher, livrés directement chez le consommateur ou en dépôt point relais. Tout d'abord en Île-de-France, car l'entreprise créée en 2020 s'attaque pour l'instant à l'Île-de-France. Elle envisage d'étendre son service à d'autres villes pour vous donner un ordre de tarif, un panier de fruits et légumes de 4 kilos proposé à 15 euros. Il y a 30 agriculteurs, producteurs concernés pour l'instant. Hors norme.co